17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Grand témoin aujourd'hui, Maga Ettori. Alors Maga Ettori, on peut vous présenter comme un engagé, comme un enragé, comme un passionné. Vous avez plusieurs casquettes, vous êtes militant, vous êtes écologiste, vous êtes réalisateur, cinéaste, producteur, vous êtes un homme orchestre en fait. Et ça vient d'où ce bouillonnement et ce foisonnement à la fois d'idées et d'actions?
Le foisonnement, je l'explique pas. On est comme ça, on est fait comme ça. Il y a des oiseaux qui volent, il y a des poissons qui nagent. Moi, je suis comme ça. Maintenant, mon moteur en général,
c'est... Vous êtes comme ça, c'est-à-dire que vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit, comme Astérix dans la potion magique.
Exact. Ça n'a pas beaucoup évolué. J'ai l'impression qu'on est toujours sur la même énergie. Maintenant, je dirais que ce qui me fait réagir vraiment, c'est l'injustice, les injustices, et ça depuis toujours en fait. Donc je suis complètement hermétique aux injustices, et chaque fois que je suis confronté à une injustice, quelle qu'elle soit, je réagis. Ou certaines fois je surréagis, mais en tous les cas je réagis, oui.
Alors, on est à la radio, on vous voit pas, hein, mais si je décris un peu aux auditeurs, vous avez les cheveux très longs, vous avez une barbe, un peu c'est... Comme un prophète, quoi. On vous a déjà dit ça, que vous aviez un peu cette espèce comme ça, vous dégagiez une aura de guide, de prophète. On vous a déjà dit ça?
Oh, j'espère que non. De prophète, non, surtout pas. Maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup vécu dans des pays anglo-saxons, notamment en Irlande. Ça marchait bien, mais pour un corps, c'est vrai que j'ai un physique un peu particulier, mais ça va, je gère.
Parce que, en fait, Vous rejetez le mot prophète parce que vous avez les pieds sur terre, c'est ça? Vous êtes terre à terre.
C'est ça.
Vous aimez le palpable, le solide, l'action, c'est ça?
Tout à fait.
Alors, on va commencer par une de vos passions. Vous êtes cinéaste, auteur, réalisateur, producteur, et vous avez produit une cinquantaine de films. Alors, on a du documentaire, on a de la fiction. On va parler du film que vous produisez tout récemment, qui s'appelle Les Enfants de la Liberté. On va en parler dans un instant. Mais vos productions, vos documentaires traitent, ont un fil conducteur.
Alors, il y a deux choses. Il y a la partie cinéaste où je suis sur du divertissement. Alors, bien entendu, avec mes valeurs, hein, je vais pas l'opposer, mais on est vraiment sur du divertissement. Et puis après, effectivement, il y a un travail journalistique. Là, on est plus dans le documentaire. C'est un vecteur qui me plaît beaucoup plus pour traiter la réalité. Et là, je fais un vrai travail journalistique.
Et là, vous êtes toujours dans l'alternatif avec vos documentaires. Vos thématiques privilégiées, c'est tous azimuts ou vous choisissez vraiment des choses particulières?
Non, j'ai l'impression de rebondir d'un film à l'autre, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un film qui m'emmène à une thématique, quelque chose que j'ai traité ou pas traité, quelque chose qui m'a fait changer moi, quelque chose que je veux découvrir. Et donc, le meilleur film, c'est le suivant. C'est celui que j'ai pas encore fait, en fait.
Mais souvent les artistes parlent comme ça, hein. La meilleure œuvre, c'est celle qu'on a jamais écrite, le plus beau tableau, etc.
Chez moi, c'est vrai, puisque en fait, je suis en perpétuel mouvement, en fait. Et vous voyez, le confinement, ça a été la pire des choses pour moi. C'est-à-dire, vous prenez un requin, vous l'enfermez, il meurt parce qu'il doit être en mouvement permanent. Et moi, je suis un citoyen du monde, je suis quelqu'un qui bouge, qui suis un baroudeur, qui bouge dans le monde, qui bouge partout, même si j'ai ma culture qui est très fortement ancrée. Je suis corse, je le revendique, j'ai cette vision, de ma terre, de ma culture que je porte avec moi. Je vais à la rencontre de l'autre partout dans le monde, mais il faut toujours que je sois en mouvement.
Et alors, quand vous dites le meilleur film que je vais faire, c'est celui qui va venir, ça trahit une forme d'insatisfaction. C'est-à-dire que l'œuvre que vous avez produite ne vous satisfait pas complètement et vous êtes déjà dans la prochaine. C'est ça que ça veut dire, ou ça veut dire autre chose?
Non, il y a une satisfaction du travail accompli, puisque en fait, quand je prends une thématique, je la traite de bout en bout, et sur ce point-là, en tous les cas. Mais ce qui se passe, c'est que, comme je vous l'ai dit, une œuvre nourrit l'autre, voire plusieurs autres, parce que je travaille d'une telle manière et je produis tellement de films, de documentaires, etc. qu'en fait il y en a plusieurs qui sont en même temps. Je travaille à plusieurs niveaux, et donc quand j'ai fini un projet, j'ai fini le projet, mais il emmène autre chose. Et donc, quand je dis le prochain sera le meilleur, c'est parce qu'en fait, j'évolue au fur et à mesure. Alors, et ma vision évolue en même temps.
Et par exemple, dans vos documentaires ou fictions, est-ce que vous en avez un ou deux que vous préférez, ceux qui vous ont, sur lesquels vous êtes le plus content, ou ceux que vous préférez, enfin, je ne sais pas comment on peut donner un qualificatif, mais celui qui vous a marqué.
Voilà. Je dirais celui qui m'a le plus, à un moment donné, marqué, c'est le film Fairyland, qui était interprété le rôle principal par Yves Duteil. Et effectivement, j'étais à Marseille, capitale européenne, pour présenter un de mes films sur le climat. Et là, j'étais interpellé par des militants de la cause animale, qui me disent, bon, c'est mignon ce que vous avez fait sur le climat, c'est un beau travail, mais vous n'avez pas du tout parlé d'élevage intensif. Je dis, si, un petit peu, me dit, non, mais, vraiment pas beaucoup. Et donc, ils ont commencé à m'alimenter en information, et là, je suis tombé des nues. Moi, je me prenais pour un chevalier blanc. Tout ce que je faisais bien était bien, et enfin, du mieux que je pouvais. Et puis, effectivement, je tombe sur l'exploitation animale, et là, je commence à me gratter la tête. Donc, à partir de là, je commence à enquêter. On sort un premier documentaire, et puis, un travail un peu plus long, qui est un travail de fiction, où j'ai tourné dans le monde entier, où je suis allé filmer partout, et j'en ai fait effectivement, sur le thème de la mythologie celte, j'en ai fait une fiction avec Yves Duteil qui jouait le rôle d'un druide. Bon, c'est amusant. Mais celui-ci m'a marqué parce que, en fait, je suis devenu vegan à ce moment-là. Moi qui arrive du rural, moi qui arrive d'une société qui est pas du tout un végétarien, on le regarde en disant qu'est-ce que c'est cette secte-là.
On aimait bien la côte de bœuf.
Voilà, ouais, moi j'étais plus grand mangeur de viande de la Méditerranée. Et quand effectivement je me trouve confronté au véganisme, c'est un choc, hein, vraiment c'est un choc. Et comme je fais pas dans la demi-mesure, je monte une structure qui s'appelle Vegan Warrior. Alors, moi j'ai besoin d'inspiration, j'ai besoin de gens qui m'inspirent. Et là, ma source d'inspiration, c'est un couple. Ce sont deux Australiens, des amis, des gens très très proches de moi. Jeannette Alan Murray, ils ont 68 et 71 ans. Elle a eu un cancer. Ils sont en Australie. Ils courent, ils font du sport depuis toujours. Et ils disent, on va courir 366 marathons ou 366 jours. Un marathon par jour à 68 et 71 ans. Alors, je vous parle pas de tous les clichés.
Ça veut dire 42 kilomètres par jour.
Exactement, 42,195 par jour. Et ils ont réussi. Ils sont dans le Guinness des records pour leur cause. Et là, je me dis, waouh, effectivement, on peut faire quelque chose. Et moi qui fais 140 kilos à ce moment-là, je dis, ok, je vais faire la même chose. Donc, je monte la structure et je commence à courir 1, 2, 3 marathons. Et effectivement, je m'entoure de spécialistes et je mène ma course comme ça. Et quand je mène ma course, en fait, comme en général, je ne suis pas un donneur de leçons, je ne dis pas aux gens, vous devez faire ça, je dis, moi, je le fais. Et puis, qui même me suivent, en gros. Et à la première course, j'étais tout seul dans Paris, au marathon de Paris. Enfin, il y avait des gens autour de moi, mais j'étais le seul à courir. La fois suivante, on était 80, dont Jeannette et Alan, qui faisaient leur 500e marathon. Et ainsi de suite, c'est allé crescendo. Et aujourd'hui, on est implanté partout dans le monde avec des sportifs du dimanche ou l'élite du sport, hein. Je pense à mon ami coach qui était Mourad Hamdouni, par exemple, qui était là aux Jeux Olympiques, vraiment avec l'élite du sport mondial.
Mais quand vous faites Vegan Warrior, c'est-à-dire les combattants du vegan, ça veut dire que vous vous battez, vous cultivez l'effort sur soi-même, c'est-à-dire que les gens doivent s'abstenir de manger de la viande, etc. Donc il y a un côté, il y a un travail à faire sur un challenge, ou est-ce que c'est un combat par rapport à tout ce qui est pas vegan, donc toutes les autres formes d'alimentation. Pourquoi associer à la fois vegan, qui est le régime alimentaire purement végétal, et puis le mot de combattant? Pourquoi combattant?
Alors, C'est une construction. Au départ, on réunit, on est vegan marathon. C'est-à-dire que, au départ, c'est une structure qui réunit les sportifs qui courent uniquement.
Et puis, quel que soit X, c'est-à-dire que ils peuvent être omnivores, ils peuvent être ce qu'ils ont envie, quoi.
Alors, on parle de deux choses. Il y a un régime. Le régime, c'est le régime végétarien, végétalien. Après, on a le véganisme. Le véganisme, c'est plus une prise de position, on va dire presque politique, sociétale, engagée. Donc, ça, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Sur le véganisme, il y a deux façons de se comporter. Soit, effectivement, vous êtes végane chez vous, tranquille, comme vous diriez, je suis bouddhiste, je casse les pieds à personne. Soit, vous êtes un militant. Et après, dans le militantisme, vous avez plusieurs niveaux. Ça va de l'extrémisme le plus, le pire, je dirais, jusqu'au progressiste, Et nous, on se situe dans la prise de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on montre des gens qui sont des sportifs de très très haut niveau, on dit voilà, si eux le font, c'est-à-dire si eux sont capables d'aller au meilleur de leur sport, sachant que leur corps, c'est ce qui permet de mener leur combat, on va dire, sportif. Quand je parle de combat, c'est jamais quelque chose de militaire. Je suis un grand pacifiste, mais le mot combat est quand même intéressant. Donc, si ces gens-là sont capables de le faire à leur niveau, tout le monde peut le faire. Et d'accord. Je le démontre moi en ayant une santé précaire. Et en disant, vous voyez, je le fais moi-même. Je prouve que ça fonctionne.
À tout de suite.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, aujourd'hui, grand témoin, un homme orchestre différent des autres, journaliste, écologiste, militant, cinéaste, beaucoup de choses en même temps, Maga Ettori. Vous êtes, on va reprendre votre casquette de cinéaste, et là vous réalisez un film, Les Enfants de la Liberté, et à propos de toute cette histoire autour du Covid, toute cette histoire qu'on a eue de vaccination, on a parlé de complotisme, on a parlé des vaccins, des laboratoires, etc. Et vous avez voulu mettre l'accent sur les aides-soignants. Sur ces gens qui ont donné de leur temps, de leur vie, et qu'on souvent on applaudissait à 20h. Racontez-nous un peu l'histoire de ce film que vous produisez d'ailleurs, que vous mettez que vous présentez aux Mureaux. Donc, racontez-nous Les Enfants de la Liberté.
Alors d'abord, je ne réalise pas, je co-réalise, c'est-à-dire il y a ma fille qui est Ariakine Ettori, qui est également réalisatrice et qui apporte une part non négligeable à ce film. Ensuite, ce film arrive après un autre. Alors très rapidement, moi j'ai eu le Covid et pendant 4 mois la fièvre, enfin c'était assez terrible, pancréatite, machin, je vous passe les détails. Et donc quand en août des soignants viennent me voir en me disant Maga, voilà, toi tu te bats pour la liberté d'expression, nous on a un souci, on pense que il y a des soucis par rapport à ce vaccin, on ne veut pas se faire vacciner ou en tous les cas pas, donc on m'explique, on me détaille, on argumente et on me dit voilà, le 15 septembre si on n'est pas vacciné, on nous vire. Et il faut absolument qu'on ait des micros ouverts d'ici là. Donc, au début, je suis un peu sceptique. Et puis, on commence à enquêter un petit peu, très largement, dans toute la France, d'ailleurs. Et là, on se dit, mais en fait, ça tient debout, leurs propos. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je ne suis pas médecin. Donc, je ne suis pas apte à dire si oui ou non, d'un point de vue médical, ils ont raison. Mais en tous les cas, ils doivent être entendus, de mon point de vue.
Ça, c'est la première. À ce moment-là, les manifs anti-vax ont déjà commencé ou pas encore ?
Oui, on est au mois d'août, mais moi je parlerai pas de manifs anti-vax parce que je les ai filmés et j'ai vu des gens des jeunes, des vieux, des machins, des gens qui avaient rien à voir les uns avec les autres. À un moment donné, mettre une étiquette anti-vax, personnellement, je serais pas faire.
Moi, j'ai vu quelques-uns de ces cortèges et c'est vrai que était brandi constamment le mot de liberté.
Oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça qu'on a pris. Alors,
le mot de liberté était constant dans ces manifestations.
Oui, Oui, mais il faut pas oublier. Alors moi, par exemple, sur la partie vaccinale, effectivement, je me prononçais pas. Je voulais leur donner la parole. Par contre, j'étais fermement opposé dès la première seconde au pass. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne vois pas en quoi le pass sanitaire va apporter quoi que ce soit à l'aspect médical, en fait. Donc effectivement, moi je l'ai ressenti, d'autres l'ont ressenti, et je suis pas surpris. Je leur ai posé souvent la question en tant que journaliste, pourquoi liberté ? Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait un premier film, comme je vous l'avais dit, avant le 15 septembre, qui s'appelle « Liberté, blouse blanche ». Et alors, « Liberté, blouse blanche », en fait, il a été montré dans toute la France, et ensuite, il a été mis en ligne. En un mois, on a fait 170 000 vues, des gens qui sont vraiment allés dessus, et il y a quelque chose comme 700 commentaires. Et dans les gens qu'on avait interrogés, qu'on avait rencontrés dans ces manifestations, il y avait Sonia Hamdouchi. Ma fille l'avait recrutée, donc on avait interviewé pas mal de personnes. Et elle, en fait, si vous allez dans les commentaires du film, vous avez 600 commentaires, tous sur Sonia Hamdouchi. Vraiment, sa sincérité a touché tout le monde, en fait. Voilà, elle est complètement authentique, et c'est elle qui est devenue le personnage, alors que dedans, il y a des scientifiques, il y a des journalistes, et en fait, c'est Sonia qui a touché tout le monde. Donc là, on s'est dit, ce qui serait bien, c'est, voilà, une personne qui est au Mureau, qui est pas très connue à ce jour, qui est pas très connue, mais qui a ce pouvoir d'inspirer les gens. Et donc, effectivement, pour moi, ça devient, Sonia Hamdouchi, ça devient un vrai sujet. Et pendant 6 mois, avec ma fille, on va la suivre. On va la suivre dans tous ces combats. Et ces combats, c'est pas simplement le combat pour le vaccin, etc. Blouse blanche, pour elle, c'est un symbole, puisqu'elle est soignante. Mais en fait, vraiment, elle combat pour toutes les libertés fondamentales. Elle est dans les quartiers, elle est avec les jeunes, elle est dans les maraudes un petit peu partout. Elle est présente partout et on la suit partout. Et bon, je vous cache pas que le film, il aurait pu faire 8 heures. Hein. On l'a réduit à 90 minutes, mais c'est des choses, des temps incroyables. C'est quelqu'un qui va travailler 10 heures par jour au Mureau, qui va soutenir les gens, et puis qui va prendre sa voiture, qui va descendre à Nice, qui va aller faire une projection de film, qui va aller dans les manifestations, s'endormir pendant je sais pas combien d'heures. C'est des gens d'exception. Mais des gens, en fait, moi quand je dis d'exception, j'y crois pas, en fait. Parce que des gens comme ça, j'en ai rencontré partout dans le monde entier, en permanence. Et c'est ça ma source d'inspiration. C'est cette matière humaine qui, justement, vous me posiez la question au début d'émission en disant, qu'est-ce que vous êtes tombé dedans? Comment ça s'est passé? Ben, c'est exactement les questions que je pose.
Alors, les enfants, c'est qui les enfants de la liberté? Ben, c'est qui les enfants?
En fait,
c'est des gens comme Sonia ou c'est...
La réponse se sera apportée dans le film, puisque effectivement, au départ, nous, sur le premier film, on n'a pas du tout parlé des enfants, les enfants. Quelle était la problématique autour des enfants? Ça nous semblait important de le traiter. Donc, le point de départ, ça a été les enfants. Mais ensuite, effectivement, il y a des gens, bon, je vais vous spoiler un petit peu le truc, mais il y a des gens dans le film qui disent, mais en fait, les enfants de la liberté, les dernières personnes libres, c'est nous. Et on parle de gens qui ont 40 ans et qui disent, ben... Donc, la question revient au fur et à mesure, qui sont les enfants de la liberté?
C'est-à-dire, c'est nous avant la robotisation, c'est ça?
Peut-être, oui, ce genre.
Alors, vous savez, toute la polémique qui est autour, parce qu'il y a eu beaucoup... On a accusé ces gens d'être complotistes, d'être contre les vaccins, etc. Et puis, surtout, on a défini des groupes de population, les vaccinés, les non-vaccinés. On a commencé à culpabiliser les non-vaccinés, à ne pas salarier les gens qui n'étaient pas vaccinés, qui allaient travailler. Et en fait, derrière tout ça, il y a eu constamment deux débats, celui de la démocratie et de la dictature, celui de la liberté et surtout celui de la transparence, c'est-à-dire qu'à travers les passes vaccinaux, à travers tout un tas de choses, on avait le contrôle des données personnelles, en particulier des données sanitaires, et que c'était un début de contrôle à l'échelle de la planète, de contrôle des gens avec des puces qu'on pouvait mettre en sous-cutané, etc. Et c'est ça ce dont vous voulez parler dans le film?
Non, moi, c'est de ça dont Sonia Mdouchi parle, et c'est à peu près ça, parce que c'est pas tout ce que vous venez de dire. Mais effectivement, il y a un souci de contrôle. Et ce souci est encore plus prégnant, notamment dans les quartiers populaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez des gamins qui, pendant le confinement, étaient en permanence sous l'œil des caméras, quand vous allez au Mureaux, par exemple, pour vous parler des Mureaux, vous avez sur un poteau, vous avez 10 caméras, dont, au passage, des caméras qui donnent directement sur des appartements, des caméras à 360 degrés. À un moment donné, il faut être gentil, il faut être sérieux, quoi. Là-dedans, vous avez des gamins qui, alors, un coup, ils devaient rentrer chez eux à 18h, la fois suivante c'était à 16h, etc., etc. Et on se retrouve aujourd'hui avec des gamins, Sonia a des dossiers par exemple, de gens qui ont 15 000 euros d'amende en période de confinement. Qu'est-ce que vous allez expliquer à un gamin de 20 ans? Moi, le point de départ en fait de ce deuxième film, c'est la rencontre avec les enfants de Sonia. Et pas seulement ses enfants, mais ils étaient une quinzaine d'enfants dans le premier film, hein, mais je les ai gardés pour la suite, et je leur dis, c'est quoi la liberté pour vous? Et à un moment donné, il y a un gamin qui me regarde, il me dit, bah, je sais pas, on l'a jamais eu, nous, on l'a jamais connu. Waouh! Un gamin de 20 ans qui me dit ça, moi, il me fend le cœur. Je vous dis, il me fend le cœur. Comment tu l'as jamais connu? Et là, il y a tout un débat qui se lance avec tous les jeunes. Ben oui, c'est un point de départ pour un film. C'est quoi leur avenir? Qu'est-ce que vous leur promettez à ces jeunes-là? Ma réaction face aux injustices, c'est ça. Moi, je découvre moi, j'arrive plutôt du rural. Bon, j'ai tourné dans le monde entier, j'ai vu des situations pas possibles, mais là, j'arrive en région parisienne. Effectivement, j'ai aucune expertise dans le domaine, et je découvre les choses en tant que journaliste, et je me dis, c'est pas possible.
On continue à en parler dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Maga Ettori est notre grand témoin aujourd'hui, un homme qui se lève contre les injustices et qui et son combat, c'est de produire et de créer des choses. En tout cas, c'est à souligner. Et les enfants de la liberté avec Sonia Mdouchi. Donc, en fait, cette liberté, c'est quelque chose qui est en quête. On est à la recherche de cette liberté. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être réduit au stade de robot, et on se dit, bon, on vit, on existe, et on veut pas être manipulé. Et notre liberté, c'est notre liberté individuelle. Ce film met l'accent sur cette volonté d'exister des gens et de pouvoir donner leur avis, donner leur opinion, et de ne pas être instrumentalisé, qu'on les considère comme des acteurs fondamentaux de la société.
Oui, mais ma démarche est un petit peu différente. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pars du principe que d'un côté, pour vivre en société, il faut qu'on ait de la sécurité. De l'autre, il faut qu'on ait de la liberté. Et c'est à nous de pousser le curseur d'une manière collective vers quoi on veut aller? Un peu plus de liberté, un peu plus de sécurité. Or, aujourd'hui, le curseur, il se pousse de plus en plus vers la sécurité. Et on perd de plus en plus de liberté. Mais c'est pas un complot, hein. C'est un choix collectif. C'est nous qui poussons en ce sens. Donc, à un moment donné, pour que ce choix collectif, soit orienté un petit peu autrement, moi qui suis un fervent de la liberté, jusqu'à un certain point, qu'est-ce que je fais? Je fais des films, je produis des films que je réalise et je les montre. Et je déplace un peu les cadres, les gens les voient, ils se font leur opinion. Je mise sur l'intelligence individuelle et collective.
Mais vous connaissez tout le débat autour de la liberté. Vous manifestez votre liberté individuelle en refusant de vous faire vacciner ou en ayant telle ou telle position, mais vous mettez en jeu la liberté collective. Et puis finalement, il n'y a pas de liberté sans sécurité. Et puis la sécurité veut dire aussi de la liberté. Donc tout ça est mélangé.
Tout ça est mélangé, tout ça, ce sont des choix de société, on est complètement d'accord. Mais à un moment donné, si vous dites je vais me promener nu en ville et je vais mettre des claques aux gens, oui, tu es en liberté, mais tu es pas à ta place. Donc tu vas sur une montagne, tu fais ce que tu veux. Donc à partir du moment où on décide de vivre en société, bah, il faut faire des choix. Mais il faut faire des choix où, à un moment donné, il faut pas, il faut prendre, comment dire, que chacun ait sa place, que chacun soit représenté. Or, aujourd'hui, dans les choix de la société, j'ai de plus en plus l'impression, en tous les cas, moi, qui m'y intéresse en ce moment, que l'élite politique est complètement déconnectée de, on va dire, du peuple, d'une manière générale, et que c'est comme, à partir de quoi est-ce que vous faites des choix collectifs ? C'est une vraie question, en fait.
Alors, ce film, Les Enfants de la Liberté, bien sûr, va être diffusé sur les écrans. Donc, on pourra le voir très bientôt. Donc, Les Enfants de la Liberté, réalisé par Maga Ettori, et qu'il a commis avec la complicité de sa fille, Ariakina Ettori, joué magistralement avec Sonia Amdouchi, dans le rôle principal, Les Enfants de la Liberté, donc bientôt sur les écrans et présenté au Festival de Cannes. On continue dans cette émission avec une de vos passions, de vos casquettes, de vos engagements, qui est l'engagement écologiste. Et donc on fait le lien avec les Vegan Warriors, hein, le fil n'est pas interrompu. Et vous êtes aussi un ardent défenseur de la transition énergétique, de l'écologie, et vous avez accepté de rejoindre un mouvement qui s'appelle l'écologie au centre. Et d'ailleurs, vous vous présenterez dans la 9e circonscription des Yvelines. C'est pourquoi ? C'est pour marquer les choses, de dire voilà, je suis candidat, c'est-à-dire que je mets en harmonie, en corrélation mes idées, mes convictions et mes actions.
Ça va plus loin que ça. J'arrive dans la 9e circonscription des Yvelines en pompier. On a en face de nous des élus qui sont des pyromanes. Et à un moment donné, effectivement, je suis Sonia pendant X mois et je vois quels sont les problèmes. Quand vous avez un élu, je tiens absolument à vous raconter cette anecdote. Quand vous avez le député de la circonscription actuelle, République En Marche, ok, c'est un fait. Donc vous avez l'élu qui arrive au Mureau, qui fait une réunion publique, donc ouvert à tout le monde, et qu'il arrive avec la police, et qu'il empêche les gens de rentrer. À un moment donné, vous dites, mais le gars, il est complètement déconnecté de ce qu'il doit être. Moi, je connais des élus. Tiens, j'ai envie de citer mon ami André Santine. André Santine, quand il se promène à Sillé-les-Moulineaux, il n'a pas besoin de police autour de lui. Tout le monde peut l'aborder. Et en 40 ans, il a fait de sa ville, il a fait quelque chose de où il y a du bien-être. Et là, dans cette circonscription, c'est tout le contraire. Les gens sont laissés à l'abandon. Et là, vous dites, mais on fait quoi ? C'est quoi la solution ? Moi, personnellement, je fais le ménage. Voilà, moi je fais le ménage. J'arrive là-bas, croyez-moi sur parole, j'arrive là-bas pour gagner. Je suis jamais rentré sur un ring ou sur un dojo pour perdre. Là, j'y vais pour gagner.
Mais ça veut dire un travail de quotidien. Il faut faire les marchés, les appartements, les réunions d'appartements. Il faut faire du porte-à-porte. Il faut faire. C'est un engagement colossal.
C'est un engagement colossal. On fait tout ce qu'il faut faire. On fait tout ce qu'il faut faire. Alors, pour la petite histoire, vous voyez, le fil n'est jamais rompu. La personne qui est ma suppléante, et plus que suppléante, c'est presque moi en bis, c'est Sonia Amdouchi.
D'accord. Et parce que vous avez aussi un projet, c'est une espèce de festival d'éco-transition du 3 au 10 juin. C'est lié avec l'écologie au centre, c'est lié avec cet engagement-là.
Non, c'est lié à mes engagements. C'est-à-dire que depuis des années là, ce projet notamment, c'est de mettre les gens en connexion, mais de partout sur la planète en fait. On a une plateforme. Et on permet aux gens de se mettre en connexion, de se renforcer, de créer des projets, etc., d'un bout à l'autre de la planète. Et bon, la date tombe, c'est vrai, c'est pas de chance pour moi, parce que pendant la période de la campagne législative, il se trouve que j'ai à la fois le festival de Cannes et à la fois notre festival. J'avais pas prévu de mener ce double combat. Mais là, l'idée effectivement du festival, bah, c'est pas grave, on va le mener aussi sur les Yvelines, on va organiser des soirées, des manifestations, ça va être un bon prétexte pour organiser des soirées, permettre à des citoyens de prendre la parole et les rencontrer, c'est très bien.
Alors, ce qui fédère tout ça, en fait, l'écologie au centre, la transition, l'engagement pour les législatives, cette casquette de journaliste, Vegan Warrior, c'est quoi? C'est le souci, cette quête de liberté. C'est parce que au-delà de ce que vous produisez, il y a quelque chose qui vous fait bouger. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous insurgez contre l'injustice. Mais vous avez envie de donner la parole aux gens, c'est ça? Vous avez envie d'être le révélateur de personnalités, de petites personnes ou de grandes personnes, d'actions. Vous voulez, à votre façon, être un support pour montrer des choses. Vous êtes dans l'alternatif.
C'est exactement ça, en fait. Je dirais pas plus que ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que j'ai une chance, c'est d'avoir une force. Je peux pas l'expliquer, c'est-à-dire que à un moment donné, quand je décide de faire quelque chose, je vais porter le projet. Et si je peux le porter pour aider quelqu'un ou pour aider un groupe ou pour aider une organisation, je vais le faire. Là, ne croyez pas que les législatives, j'y vais pour faire une carrière politique. J'en ai absolument rien à faire. C'est-à-dire concrètement, je vois un problème, je vois une problématique, je l'analyse. De cette problématique, je vais chercher les soutiens, exactement comme je fais chaque fois. Vous savez, quand j'ai fait le marathon, je suis allé chercher des spécialistes, j'ai perdu 30 kilos, j'ai fait la chose d'une manière très sérieuse. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire, je suis allé chercher l'écologie au centre, qui sont mes amis, que je connais depuis des années, et je sais que ce sont des gens sérieux, je sais qu'ils mènent un combat politique, qui sont très proches de mes valeurs, et donc, effectivement, moi, je voulais pas d'étiquette droite, gauche, machin, donc écologie au centre, c'est parfait, on est complètement dans le prolongement de Maga Ettori, et donc avec un sérieux, avec, je veux dire, c'est pas, on n'est pas des indépendants, on a 300 candidats, donc voilà.
En tout cas, on aura compris que face ou contre la pensée unique, Maga Ettori est là et se bat avec, à sa façon, avec ses outils, animé par l'amour de la liberté. Et donc, en tout cas, on aura l'occasion de vous retrouver sur l'antenne, et puis bon vent pour votre combat législatif, et puis on dira aux auditeurs et aux auditrices d'aller très très vite voir les Enfants de la Liberté, parce que je suis sûr que d'une certaine façon ils se retrouveront dans ce film. Merci d'être venu.
Merci de m'avoir accueilli dans ce temple de la liberté d'expression.
Merci Maga.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.